Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza, Quentin Duchemin, Audrey Guélou.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1 Écrire sur le web, enseigné à l'UTC par Stéphane Croza. WE1, c'est un cours dans lequel on apprend à mobiliser des connaissances théoriques sur le numérique et le web, notamment pour adopter une posture réflexive quant à ses usages du web en tant que futur ingénieur. On apprend aussi par la pratique, en manipulant un serveur web par exemple pour savoir publier des documents de façon autonome sur le web. Et puis on aborde également WE1 les dimensions culturelles, politiques et éthique du web. Donc chaque semestre dans ce cours-là, les étudiants et les étudiantes de WE1 constituent des groupes pour réaliser un projet de publication sur le web d'un dossier thématique qui aborde une problématique technologique du web et qui contient des articles, des fiches de lecture, des interviews parfois et puis toujours aussi une intervention radio. Donc si vous avez écouté Graphite en début d'après-midi, vous avez entendu Quentin Duchemin animer deux émissions pendant lesquelles deux groupes d'étudiants et d'étudiantes ont respectivement présenté leurs travaux sur les thèmes de la décentralisation du web et puis aussi sur le mode de gouvernance de Wikipédia en lutte contre la désinformation. Et puis on va poursuivre maintenant avec une troisième présentation cet après-midi avec cette fois-ci Jordan Soares de Jésus, Mohamed El Amadi et Angel Calhoun. Bonjour à tous les trois.
Bonjour à tous. Bonjour.
Alors vous avez choisi tous les trois de réaliser votre dossier sur le thème de l'évolution de la diffusion d'actualités sur le web. Vous allez nous présenter un exposé collectif à ce sujet. Et pendant ce temps, les autres étudiants sont à l'écoute de votre intervention et ont pour mission de vous poser quelques questions sur Mattermost Canal Live. Donc je vous relayerai leurs questions au micro. Et on va démarrer avec une première partie. Jordan, tu vas commencer par nous parler de sites web de radio d'information internationale. Et je te laisse la main. À toi, Jordan.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous ouvrir la marche et vous introduire le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. La diffusion de l'information sur Internet, c'est un phénomène qui est assez complexe et en constante évolution. De nos jours, il existe de nombreux sites d'information en ligne qui diffusent les dernières informations sur les événements du monde entier. Ces sites d'information sont généralement alimentés par des journalistes professionnels qui recueillent et vérifient les informations avant de les publier en ligne. Cependant, de nos jours, il y a des réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook et Instagram qui sont également devenus des sources importantes d'informations pour de nombreuses personnes. Sur ces plateformes, les utilisateurs peuvent suivre des comptes de médias et de journalistes pour rester informés des dernières nouvelles. Mais ça, mon collègue Angel vous en parlera un petit peu plus après. Dans cette intervention, nous, on va s'intéresser à comment a évolué la diffusion de l'information sur le web au cours du temps, c'est-à-dire quels différents moyens ont été utilisés afin de diffuser l'actualité en ligne au fil de l'évolution d'Internet. En particulier, nous allons balayer les conséquences qu'impliquent ces moyens sur l'harmonisation des sujets, des contenus, de l'information et des formats. Si on remonte un petit peu plus dans le temps, dans les années 2000, il y a des radios nationales en Allemagne, en France ou au Royaume-Uni, donc la Deutsche Welle, la RFI et la BBC, qui ont privilégié la diffusion de l'information par la radio et qui ont développé en parallèle une plateforme d'accès à l'information. Sous la forme d'un site internet accessible pour tous les internautes, ils ont mis à disposition la possibilité de s'informer simplement et rapidement. Pour illustrer ces différents points, je vais utiliser donc l'analyse des trois sites faites par Père Jack Kouskou Djanakou en 2008, intitulée « L'émergence des nouvelles conventions sémiotiques sur les sites web d'actualité des médias internationaux ». Et je vais également utiliser un extrait audio issu de la chaîne YouTube RFI qui présente notamment le témoignage de Nathalie Amar et Simon Rose, deux journalistes RFI, quant à l'utilité du site internet RFI pour eux à l'occasion des 20 ans de la création de ce dernier.
Moi, quand je suis rentrée à RFI, le site, il n'existait pas. C'est te dire si c'était il y a longtemps. Il n'existait pas et au tout début, en fait, on l'a ressenti un peu comme un petit truc à côté qui vivait, qui faisait sa vie à côté de nous. Et au fur et à mesure que le temps est passé, en fait, on s'est rendu compte de la formidable chance que c'était d'avoir cette espèce de prolongement sur le net de notre travail à nous.
D'avoir une version internet de mes sujets permet d'être beaucoup plus précis, d'avoir un peu plus de longueur, de faire des infographies, de faire des images comme ça qui permettent de rentrer plus dans le sujet que je ne pourrais le faire pour un traitement juste radio.
Donc on entend dans cet extrait que pour les journalistes, le site il n'était pas forcément vu comme une révolution, mais plus comme une entité à part, évoluant un peu de son côté. Cependant, en 2017, donc quand la vidéo est sortie, ces personnes, ils avaient compris la puissance et l'intérêt de cet outil qui leur permettait de compléter leur travail de journalisme radio, notamment en leur permettant d'étoffer des sujets et de les illustrer avec des images, ce qui était impossible à la radio. C'est pourquoi c'est assez intéressant de voir un peu comment a évolué ce site, et même plus généralement voir comment la conception des sites des radios internationales a pu être à l'origine d'une certaine harmonisation de l'information. Donc on va parler de l'analyse de Perjak Kuskudjianaku qui a été faite sur deux dimensions différentes. Donc dans un premier temps, l'analyse de la première page qui a été faite du site, qu'on pourrait appeler la page d'accueil, étant donné que dans les années 2000, les sites n'étaient pas très développés. L'idée, c'est de regarder la composition de la page avec les dispositions des différents éléments. Est-ce qu'elle est découpée en plusieurs colonnes? Quels éléments se situent au centre de la page? Est-ce qu'ils sont mis en évidence d'une quelconque manière? Donc, ce qui va être étudié, c'est la typification des différents objets de la page, des sites, et la structure en examinant le découpage, et enfin l'architecture et l'arborescence induites par l'enchaînement des liens. D'abord, je vais vous définir ce que c'est des conventions sémiotiques, parce que je pense que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, les conventions sémiotiques, sont un ensemble de règles et de normes qui définissent comment des symboles, des signes et des codes sont utilisés pour communiquer de l'information. Ces conventions peuvent être linguistiques, visuelles ou culturelles et varient selon les contextes et les cultures. Dans le domaine de la sémiotique visuelle, les couleurs, les formes et la disposition des éléments peuvent être utilisés pour communiquer des informations ou des émotions. Ainsi, l'analyse en soi, elle demeure assez révélatrice de plusieurs choses. Donc d'abord, les trois sites européens suivent effectivement des modèles de par la ressemblance des structures, des architectures et des sites web dans leur globalité. Bien sûr, la réponse finale est bien en accord avec l'hypothèse de l'auteur au début de son document, mais il apparaît également une certaine logique dans le sens où les attentes des utilisateurs pour les trois sites, ça reste les mêmes au final. C'est d'accéder à l'information simplement et rapidement. La courte analyse de ces éléments, elle permet d'amorcer un début de démonstration sur l'émergence des nouvelles conventions sémiotiques sur les sites web d'actualité et des médias internationaux. Elle demeure assez complète et met bien en évidence les similitudes entre les trois sites, bien qu'elle ne balaye pas tous les aspects qu'une analyse profonde et très complète pourrait faire apparaître. En conclusion, les conventions sémiotiques identifiées et qui ont été suivies lors de la création des trois sites des radios internationales, elles sont révélatrices d'une première forme d'harmonisation de l'information, notamment en ce qui concerne la forme, le format, la conception et même le principe. Après avoir observé en quoi l'analyse de ces trois sites est révélatrice des conventions sémiotiques suivies par les trois radios, il est intéressant de voir un peu comment a évolué la diffusion de l'actualité sur le web et si ces prémices elles sont également révélatrices de ce qui se passe aujourd'hui.
Merci Jordan pour cette première partie où tu nous parles donc de conventions sémiotiques qui sont suivies par plusieurs sites de radio internationales, des radios d'information. Donc tu prenais l'exemple de la BBC, RFI ou encore la DW Deutsche Welle, c'est ça, c'est allemand.
Mon allemand il est un peu...
Non, c'était très bien. Est-ce que tu sais si, est-ce que c'est par exemple mentionné dans l'article que tu mobilises dans ton intervention, est-ce que tu sais si ces conventions sémiotiques qui sont utilisées, qui sont donc similaires entre ces trois sites différents, est-ce que tu sais si elles reposent sur, si le suivi de ces modèles, ça repose sur des études qui montreraient par exemple que telle organisation de l'information facilite l'accès à l'information, améliore la lisibilité, que telle configuration de la page augmente le temps de lecture, tu vois, est-ce que c'est une forme d'optimisation en fait de ces choses-là, donc c'est fait exprès que tout le monde suive ce même modèle, ou bien est-ce que cette harmonisation que l'on constate est en fait le fruit d'un mimétisme entre différents sites, est-ce qu'on sait un petit peu la cause de cette forme d'harmonisation?
Alors a priori, les conventions sémiotiques elles existent, puisque on l'a constaté. Après, c'est pas des normes qui sont écrites factuellement et rigoureusement sur un papier. Donc en fait, on peut se dire que quand il y a eu la conception du site, donc toute la démarche de conception, elle a été faite par des équipes que je suppose très intelligentes. Et donc on peut pas trop, ils ont pu réfléchir de la même manière dans le sens où à accéder à un article avec un lien simple directement et pas avec un enchaînement de 56 liens à la suite, c'est beaucoup plus simple pour un utilisateur qui veut accéder à de l'information. Et donc je pense que tout simplement c'est les équipes qui ont réfléchi pendant la conception des sites et qui en sont parvenues a priori aux mêmes conclusions.
Entendu, Jordan. Écoute, c'est une réponse claire. Merci, merci à toi. On va passer à la partie de Mohamed. Mohamed, tu vas nous parler des sites de presse en ligne et de leur classement par des moteurs de recherche. Tu es prêt ? C'est à toi.
Bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, je vais vous montrer les causes de la chute de la presse papier et ensuite vous présenter comment Google classe ses résultats lors d'une recherche. Au cours des deux dernières décennies, le web est entré dans la vie de chacun d'entre nous. Et dès les années 1990, l'idée de l'évolution de l'information était déjà née. Aujourd'hui, la plupart des gens lisent les journaux en ligne, mais cela diminue l'utilisation du fameux journal papier. Quelles sont les causes qui ont conduit à cette situation ? Tout d'abord, l'introduction des journaux numériques est l'une des principales causes qui a entraîné l'affaiblissement des journaux imprimés, comme nous l'affirme l'Institut national de l'audiovisuel. Mais d'autre part, la croissance des journalistes qui ont de plus en plus élargi leur recherche de perspectives publicitaires et marketing. Au début des années 2000, plus précisément en 2002, nous sommes entrés dans une phase plus solide du web grâce à la popularisation du haut débit et de la culture numérique. Avec l'émergence du web et des actualités numériques, le monde entier, pour s'informer et donc pour pouvoir accéder aux actualités du web, a dû travailler avec des appareils électroniques tels que des ordinateurs, des téléphones portables ou bien même des tablettes. Et bien sûr, disposer d'une connexion Internet. Aujourd'hui, trouver des actualités en temps réel et géolocalisées, par exemple, si je cherche des actualités sur Compiègne, une recherche rapide sur le web suffit pour obtenir les dernières nouvelles dans la ville. Le passage de la presse papier à la presse numérique ne doit pas être perçu de manière négative, mais présente au contraire des avantages considérables dont il faut tenir compte. Grâce à Internet et à son actualité, les contenus peuvent être personnalisés et les informations sont toujours flexibles et actualisables. L'audio que nous allons écouter est issu d'une vidéo YouTube provenant de la chaîne YouTube Le Monde, publiée il y a 4 ans, intitulée « Comment Google est devenu un empire ?»
Et Google est passé de ça, de chercheur en informatique dans un garage mal rangé, à ça, une valeur estimée à environ 750 milliards de dollars, 89 000 employés, des services allant de la messagerie en ligne à la voiture autonome et un quasi-monopole sur certains secteurs du numérique, ce qui génère des critiques. Mais alors, comment l'entreprise Google est-elle devenue un empire en à peine 20 ans ? Pour commencer, il faut comprendre pourquoi ce moteur de recherche s'est imposé face à ses concurrents comme Yahoo ou Lycos.
Allez, va chercher ! Bravo mon Lycos, tu l'as trouvé !
Dans les années 90, les moteurs de recherche utilisent une manière de classer les pages très basique et peu efficace. Les pages sont principalement rangées en fonction des mots-clés qu'elles contiennent. En gros, si on schématise, une page qui comporte 30 fois le mot chocolat a beaucoup plus de chances d'apparaître en tête des résultats qu'une page qui ne le contient qu'une seule fois, même s'il s'agit de la page du meilleur chocolatier du monde. Beaucoup d'utilisateurs préfèrent consulter des annuaires de liens comme celui proposé par Yahoo.
Cet audio nous montre que Google ne cesse de se perfectionner, laissant la concurrence loin derrière eux. De nos jours, la façon dont Google référence les sites web est bien différente de la façon dont les choses étaient faites il y a environ 10 ans. Il y a une raison importante à cela. Les moteurs de recherche ont continuellement amélioré leurs algorithmes pour donner aux internautes les meilleurs résultats possibles. Au cours de la dernière décennie, Google, en tant que principal moteur de recherche, a introduit plusieurs mises à jour majeures. Et chacune d'entre elles a eu un impact important sur les meilleures pratiques de référencement. Voici les deux principales mises à jour de l'algorithme de Google à ce jour, ainsi que certaines de leurs implications pour la recherche et le référencement. Tout d'abord, la mise à jour Panda de Google a tenté de s'attaquer aux sites web créés uniquement pour être classés dans les moteurs de recherche. Elle s'est principalement concentrée sur les facteurs liés à une page. En d'autres termes, elle a déterminé si un site web offrait réellement des informations sur le terme de recherche utilisé par les visiteurs. Deux types de sites ont été particulièrement touchés par la mise à jour Panda. Tout d'abord, les sites d'affiliation, qui sont des sites dont l'objectif principal est de créer des liens vers d'autres pages. Et ensuite, les sites dont le contenu était très mince. La mise à jour Panda a affecté de façon permanente la façon dont nous faisons du référencement, car les propriétaires de sites ne pouvaient plus s'en tirer en construisant un site rempli de pages de faible qualité. L'algorithme de Google s'appuie sur les liens entre les pages qu'on appelle les backlinks. Ils servent à mesurer la popularité des sites et les faire apparaître en premier dans les résultats de recherche. Par exemple, si un article est publié sur un média en ligne avec une haute notoriété, et que dans cet article il y a un lien vers notre site web, alors ce site sera plus susceptible d'apparaître haut dans les résultats de recherche. La mise à jour Penguin de Google s'est intéressée aux liens que les sites web obtenaient d'autres sites. Elle analysait si les backlinks vers un site étaient authentiques ou s'ils avaient été achetés pour tromper les moteurs de recherche. Par le passé, de nombreuses personnes payaient pour obtenir des liens afin d'améliorer leur classement. La mise à jour Penguin de Google a tenté de décourager l'achat, l'échange ou la création artificielle de liens. S'il trouvait des liens artificiels, Google attribuait une valeur négative au site concerné au lieu de la valeur de lien positive qu'il aurait reçue auparavant. Comme vous pouvez l'imaginer, elle a surtout frappé de plein fouet. Elle a surtout frappé de plein fouet les sites web comportant de nombreux liens artificiels. Ils ont disparu des résultats de recherche car les liens de faible qualité ont soudainement eu un impact négatif plutôt que positif sur leur classement. Penguin a définitivement modifié la création de liens. Il ne suffit plus d'obtenir des liens retour payants et peu coûteux. Il faut au contraire s'efforcer de mettre en place une stratégie de création de liens efficace pour obtenir des liens pertinents de sources de valeur. Comme vous pouvez le constater, Google est devenu de plus en plus avancé depuis le début des années 90 et ses premières mises à jour majeures au cours de la décennie se sont concentrées sur la lutte contre les sites qui tentent de tromper le système. Mais au fil du temps, les mises à jour ont contribué de plus en plus à des résultats de recherche adaptés pour donner aux internautes de bureaux mobiles exactement ce qu'ils recherchent.
Merci Mohamed, merci pour cette partie. Là, donc sur en effet le classement par les moteurs de recherche de sites d'actualité, de sites de presse en ligne, et tu nous parlais donc de la course au classement hein, finalement par ces moteurs de recherche. Et c'est vrai qu'il y a un métier qui existe hein, spécifiquement pour aider justement les propriétaires de sites web à améliorer leur classement dans les pages de résultats du moteur de recherche Google par exemple. Ça s'appelle SEO pour Search Engine Optimization. Alors justement, lorsqu'on parle de puisqu'on parle de la diffusion d'actualités sur le web dans votre intervention. Est-ce que tu sais si l'importance pour les sites d'actualité d'apparaître justement dans les premiers résultats d'une recherche sur le web, donc l'importance de satisfaire les algorithmes des moteurs de recherche va jusqu'à transformer le contenu de ces sites d'actualité, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que le ou la SEO de la BBC ou de la Deutsche Welle conseillerait au webmaster du site d'ajouter tel lien vers tel site web, enfin voilà, de prioriser telle actualité plutôt qu'une autre. Est-ce que tu sais si ça se passe comme ça, s'il y a une vraie influence de ces classements dans les moteurs de recherche dans les choix éditoriaux des sites d'actualité, ou bien est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a une forme d'indépendance entre les classements des sites d'actualité et puis leur contenu ?
D'accord, merci pour votre question. Donc il faut savoir qu'il existe plusieurs plateformes en ligne, telles que eRéféré ou alors RocketLink, sur lesquels on peut acheter des liens provenant directement de médias français, comme Le Figaro, Le Monde ou d'autres gros médias tels que ceux-là. Mais pour publier sur ces sites, il faut respecter des normes, parce que sur ce site, on ne nous laisse pas publier n'importe quel article, notamment les sites avec un sujet plutôt divers.
Oui, des sujets plus délicats, tu veux
plus
dire.
Plus délicats, voilà, okay. C'est ça.
D'accord, Mohamed. Oui, tu veux compléter, Jordan, oui.
À titre personnel, donc j'ai pas fait de recherche supplémentaire non plus, mais ce qu'il dit Mohamed et ce qui est intéressant, c'est que, donc en fait, un site web d'actualité, enfin on peut pas prouver qu'il va tout faire pour aller dans les top 1 recommandations Google. Cependant, on constate quand même que, enfin, vous pouvez regarder un peu chez vous, n'importe quel site d'information, il a un peu la même tête, entre guillemets, qu'un autre. Donc le site de la BBC ressemble vachement au site de la RFI. Et quand j'avais fait une petite analyse dans ma fiche de lecture, qui concernait donc les sites de BBC, RFI et Deutsche Welle, je ne sais pas comment on dit. Oui. Et donc du coup, j'avais regardé, et même, en fait, même maintenant, les sites se ressemblent. Et donc on peut se demander carrément si c'est pas un peu une norme implicite de la part de Google qui permet aux sites d'actualité de presse en ligne de se faire mieux voir. Et donc du coup, ils sont un peu, entre guillemets, obligés de tous se ressembler pour pouvoir être vu par un maximum d'internautes.
Une forme d'homogénéisation, donc, hein, c'est ce que tu proposes ici. D'accord. Entendu, je vais vous relayer une question de Guillaume qui parle donc plutôt ici de la fiabilité des informations. Guillaume se demande si la presse numérique et les informations sur Internet sont régies par une entité ou une charte commune. Il faisait référence aussi aux conventions sémiotiques dont tu as parlé dans ta première partie. Est-ce que donc la presse numérique est régie par une charte commune à laquelle il faut répondre pour être considéré comme une source fiable? Est-ce qu'il y a une forme comme ça de qualification, de modèle à suivre pour être qualifié de source fiable?
Je ne sais pas s'il y a une charte ou quelque chose, mais c'est interdit de prôner des fake news ou des choses qui n'existent pas. Et c'est le propriétaire du site donc qui est responsable des informations qui sont postées sur son site.
D'accord, oui, il y a une responsabilité éditoriale sur ces sites-là, en effet. Oui, Jordan.
Et a priori, donc pour les sites, là je parle vraiment des sites de presse en ligne purs et durs, la BBC, etc., même Le Monde, etc., on a affaire à quand même des journalistes professionnels, donc c'est un peu dans leur... c'est leur métier, donc, en fait, de faire ça. Et juste, il y a un point à faire attention, du coup, c'est au niveau des réseaux sociaux, donc la partie d'Angel qui va vous détailler un petit peu après. Là, par contre, c'est pas régi, enfin, il n'y a aucune règle, en fait. N'importe qui peut s'appeler Média Compiègne, par exemple, et publier n'importe quelle information sur son compte Twitter. Donc, c'est au niveau des vrais sites de presse en ligne, là, on peut... Bon, bien sûr, la fiabilité, elle n'est pas non plus de 100% à chaque fois, mais le taux de fiabilité est quand même assez élevé. En revanche, sur d'autres plateformes comme les réseaux sociaux, là, il faut faire un peu plus attention.
Faire un peu plus attention et donc remonter aux sources, voilà. Et aller vérifier leur fiabilité. Entendu. Alors, avant de passer donc à la troisième partie, à celle d'Angel qui va nous parler en effet de l'actualité sur les médias sociaux, c'était une belle transition, Jordan. Est-ce que, je vais relayer la question d'Eliott qui se demande si les autres moteurs de recherche suivent les mêmes critères que Google pour le référencement d'un site.
Pas du tout, du coup, mais Google, ça représente la grande, grande majorité des recherches. Donc, il n'y a quasiment aucune utilité à être classé sur un autre moteur de recherche que Google.
Alors, on a quand même des moteurs de recherche alternatifs. Je suis sûr que tu peux m'en citer quelques-uns.
Yahoo.
Ecosia.
D'accord. Bing. Okay. Certains qui éventuellement...
DuckDuckGo.
Voilà, par exemple. Oui, en effet. Ce que tu disais en premier, c'est que... Enfin non, tu ne l'as pas dit en premier, mais je rebondis sur le fait qu'en effet, en fait, pour essayer de répondre à la question d'Eliott quand même, c'est que pour suivre les mêmes critères que Google, il faudrait connaître les critères de Google. Hein. C'est le fait, voilà, tu as parlé de plusieurs algorithmes utilisés pour le classement des résultats de recherche sur ce moteur de recherche-là, mais justement ces algorithmes-là ne sont pas connus, et donc pour pouvoir suivre les mêmes critères de Google, autant faudrait-il que ces critères soient transparent pour pouvoir faire cela, Eliott. C'était une bonne question. Ok, on va passer à la troisième partie. Donc, Angel, tu es prêt pour nous parler de l'actualité sur les médias sociaux. C'est à toi.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette partie, je vais me pencher plus particulièrement sur l'actualité diffusée par les réseaux sociaux et ses implications. Alors, vous connaissez sûrement les termes de homepage, de FYP ou encore de fil d'actualité. Et c'est en effet sur ce fil qu'apparaissent à l'utilisateur les publications. Il faut savoir que d'après Christophe Asselin, c'est 16% des Français, soit 10 millions de personnes, qui disent utiliser les réseaux sociaux comme principale source d'information, ce qui les positionne en deuxième position juste après les sites d'actualité. Sur ces médias, l'information se veut plus rapide, plus directe. Par exemple, un format très utilisé est celui de l'article dit flash. Cela consiste en une publication courte et concise où on va droit au but avec des phrases accrocheuses et en omettant les détails. Un article source sera évidemment cité dans ce cas. Cela vise un but de visibilité. En effet, contrairement aux médias traditionnels qui s'adressent à leur audience en grande partie, les comptes d'actualité se propagent via les likes et les partages, touchant ainsi plus de monde. Le problème que cela impose est comment les réseaux sociaux estiment-ils la pertinence d'une publication et pourquoi apparaît-elle sur notre fil ? Donc nous allons écouter maintenant un extrait d'une interview provenant de Télé Nantes, intitulée « Le numérique nous prive-t-il de liberté ?» publiée le 26 novembre 2015. Le journal interroge un enseignant-chercheur, Olivier Hirschleid, qui est ma source principale pour la rédaction de ma fiche de lecture et de mon article, sur la question de la liberté quant aux outils d'Internet.
Il faut se souvenir du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, c'est-à-dire comprendre que cette possible privation de liberté, nous en sommes pour une grande partie responsables, puisque c'est nous qui choisissons de confier, même si on nous y incite fortement, mais nous choisissons de confier tout un tas de données personnelles à ces outils, à ces sociétés, à ces algorithmes, et que ces données sont ensuite réutilisées pour de plus en plus prendre des décisions à notre place, sous la forme par exemple de systèmes de recommandation, et des décisions qui s'étendent aujourd'hui à des domaines qui sont plus uniquement celui de la consommation, mais qui s'étendent à des domaines régaliens, l'éducation, la santé, le transport. Donc ça pose deux questions, la question de l'opacité de ces algorithmes, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, on en a une vague idée, et la question de la responsabilité, si un algorithme bug, crée un accident ou un incident, est-ce que cet algorithme peut être considéré comme responsable de ces actes ? Si on veut éviter des scénarios à la 1984 d'Orwell, il va nous falloir remettre ces questions au centre du débat démocratique et arriver à construire un corpus de règles algorithmico-éthiques qui permettront justement d'éviter un certain nombre de dérives et d'identifier clairement les responsabilités pour que le numérique reste un outil d'émancipation et non pas un outil qui nous prive de nos libertés.
Et donc, on peut se demander quel est le mécanisme qui se cache derrière cette récupération d'informations, puisque vous le savez, les réseaux sociaux font partie de ces outils. En effet, les médias collectent des informations des utilisateurs à des fins commerciales. C'est M. Hirschfeld lui-même qui le précise dans son article intitulé « L'homme, un document comme les autres ». Les médias sociaux utilisent ces données pour établir un graphe social mettant en relation les individus par plusieurs critères, comme le cercle d'amis, les passions ou le travail. Cela a pour but la marchandisation de l'indexation de ces comptes, c'est-à-dire de la mise en relation et de la documentation quant à ces individus. Si l'on s'appuie sur la raison computationnelle, qui stipule que le numérique apporte de nouvelles formes de représentation basées sur le calcul, et selon la théorie du support, on peut dire que l'être humain a besoin de cette nouvelle technologie pour s'exprimer, dans le sens où c'est devenu, comme l'écriture le fut, une révolution d'expression. Ainsi, cela engendre un véritable pouvoir pour les médias sociaux, puisqu'en contrôlant ainsi l'identité numérique, il est possible de contrôler ce qu'Olivier Hirschfeld décrit comme les axes du web, c'est-à-dire l'axe de la sphère privée d'un côté et celui de la logique participative du web de l'autre. Les acteurs marchands se trouvant alors à la croisée de ces deux axes, croisée qui se fait de plus en plus floue à cause de la documentation ainsi récoltée. On parle alors de la sérendipité des médias, c'est-à-dire l'appropriation des informations sociales. Ainsi, certains comptes d'actualité utilisent ces informations afin de cibler leur audience, mais aussi de savoir ce que leurs abonnés veulent lire. Quant aux solutions dont ils parlent dans la deuxième partie, c'est en fait plusieurs principes. Tout d'abord, celui de l'indexation sociale, autrement appelé folksonomie. Le principe est en fait très simple. On défend ici le référencement par représentativité et donc logiquement la pertinence. Dans son article, le scientifique propose que ce système en alternative des moteurs de recherche, mais on pourrait très bien l'appliquer aux réseaux sociaux d'eux-mêmes. Cela permettrait d'éviter une situation monopolistique des médias. Et le deuxième grand principe est la décentralisation de ces outils qui vient fortement appuyer le premier. On pensera évidemment aux chatons, puisque avoir des réseaux libres et éthiques sont sûrement la clé pour une reprise de pouvoir sur Internet et éviter l'asservissement par un algorithme. Ainsi, les médias sociaux sont devenus une nouvelle source de diffusion d'actualité puissante et rapide. Cela soulève néanmoins des problèmes quant à l'éthique de l'utilisation de ces informations.
Merci beaucoup, Angel. Écoute, dans cette partie, tu as fait le lien entre beaucoup de choses. En effet, hein, la diffusion d'actualités sur les médias sociaux, la marchandisation de l'information, les interactions sociales qui ont lieu dans ces espaces numériques de diffusion d'informations, et puis le partage d'opinions qui se fait autour des articles diffusés sur les médias sociaux. Et puis, en effet, dans l'article d'Olivier Hirschfeld, l'homme, un document comme les autres, celui que tu mobilises, eh bien, dans sa conclusion, il nous amène à comprendre une des conséquences de la diffusion d'informations sur les sites web indexés par les moteurs de recherche et puis sur les médias sociaux aussi. Il parle vraiment de la marchandisation, il dit des traces identitaires numériques qui sont liées aussi à notre identité. Bref, on comprend qu'il y a un problème assez identifié autour de la marchandisation des données, autour aussi des revenus fondés sur la publicité qui sont utilisés comme source donc, de revenus par des médias sociaux utilisés et puis par les moteurs de recherche qui vont classer les différents sites d'actualité. Alors, heureusement, disons, on peut ne pas s'arrêter à ce constat. Et comme tu as dit, hein, il y a des alternatives aussi. Tu as parlé des chatons, de la décentralisation, etc. Au niveau de la presse en ligne, on peut citer aussi des sites qui s'appuient sur un autre modèle économique que celui qui repose sur le capitalisme de surveillance. On en a parlé plusieurs fois dans l'émission de ce cours. Et donc, il y a des alternatives comme par exemple Reporter, L'Âge de Fer, Mediapart, voilà, des journaux qui sont financés par les dons, les abonnements de leurs lecteurs, de leurs lectrices. Donc après, ça ne règle pas forcément le problème de la marchandisation des traces, ce dont tu parlais, hein, qui sont échangées sur les médias sociaux lorsque l'on interagit avec des contenus d'actualité. Est-ce que tu verrais une porte de sortie, une forme de solution, d'alternative par rapport à ce souci précis-là, ce dont tu parles, par rapport aux traces donc, que l'on laisse sur les médias sociaux, comment faire pour continuer de s'informer via les médias sociaux sans payer l'accès à l'information avec nos données?
Bah, En fait, c'est en continuant d'utiliser les médias sociaux traditionnels, on est obligé forcément de liker des données. Mais on peut les limiter, forcément. Certains individus s'y appliquent, hein, même si ça reste difficile. On peut par exemple utiliser un pseudonyme, éviter de mettre des informations sur ses réseaux, ne pas connecter son compte Google, mais bien une adresse mail différente, etc. Ou alors, tout simplement, utiliser d'autres réseaux qui ne collecteraient pas les informations. Alors, ce n'est pas un réseau social, mais il me semble que, par exemple, Discord ne récolte pas d'informations.
Alors, je crois que Discord, peut-être qu'on va en parler dans la prochaine émission, mais Discord est aussi un logiciel propriétaire. Et Discord a été condamné récemment par la CNIL, justement, pour non-respect du RGPD. Écoute, tu as tenté, c'était bien. Mais tu vois, il y a d'autres réseaux, en effet. Tu avais raison sur le principe, de dire qu'il y a, en effet, d'autres médias sociaux alternatifs et d'autres espaces de communication qui ne récoltent pas les données de leurs utilisateurs pour ensuite faire. Enfin, voilà, sur lesquels fonder leur revenu en partie. Notamment. Donc, bonne piste. Un exemple sur le côté, mais bonne piste. Est-ce que tu souhaitais compléter, Angel ?
Mais du coup, j'ai juste d'y penser, mais Mattermost, en fait.
Ah ben voilà, Mattermost qu'on écoute, mais absolument, qu'on utilise en ce moment même. Bien joué. Mattermost, qui est un logiciel libre et dont une instance est hébergée par l'association Picassoft, donc à l'UTC. Et donc, on sait que les données qui sont échangées via Mattermost sont sur un serveur qui est géré par l'association, par des étudiants et des anciens de l'UTC. Et donc là, voilà, c'est une question de confiance. On fait confiance à ces gens-là, en espérant que ce sont des gens bien. Je vais continuer à relayer les questions qui arrivent donc via Mattermost. Il y avait Marin qui se posait une question très pratique. En effet, est-ce qu'il y a un moyen d'évaluer à quel point les GAFAM nous connaissent ? Alors, à quel point, voilà, ils ont récolté les traces que l'on a laissées par ailleurs ? Est-ce qu'on a un moyen de savoir à peu près ça ?
Personnellement, le seul moyen que je connais, ce serait de se googliser, en fait. C'est de rechercher des informations sur Internet, quel que soit le moyen. On dit googliser, mais ça peut être n'importe quelle technique. On pourrait faire, je sais pas, on pourrait utiliser le synth. Je sais pas.
D'accord, oui. Le renseignement en sources ouvertes, on va en parler dans l'émission juste après. Ouais, d'accord, donc faire ça. Et puis aussi, il me semble que sur des sites, sur les médias sociaux, on peut demander aussi un rapport sur les données qui sont collectées en relation avec notre profil. Donc voilà, il y a en effet certaines techniques. Bien, écoutez, messieurs, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les trois pour votre travail sur cette présentation et ce semestre. On vous invite à réécouter cette intervention et celle des autres étudiants de WE1 en podcast sur graphite.net, bien sûr. Et puis sur l'instance PeerTube, aperi.tube, chaîne WE1. Vous pouvez aussi venir faire un tour sur librecours.net pour retrouver tous les supports de cours. Et puis, bien sûr, venez discuter avec nous sur Mattermost, puisqu'on ne collecte pas vos données. C'est sur team.picassoft.net, équipe WE1. On va se retrouver dans quelques instants pour écouter Wemboli, Ayangma, Lassamak et Dorian Terla pour nous parler justement d'OSINT, comme tu l'as cité, Angel, c'est l'Open Source Intelligence. Si vous écoutiez notre émission la semaine dernière à la même heure, restez avec nous quand même, puisque l'exposé qui vient abordera cette fois le renseignement en sources ouvertes, non pas pour évaluer l'efficacité de cet outil-là en situation de crise, comme on l'a fait la semaine dernière, mais cette fois-ci plutôt pour en analyser certains dangers pour la vie privée et nous expliquer quelques contre-mesures pour la protéger. À tout de suite sur Graphite.